étalage de fruits. Des mangues, des pamplemousses, des bananes et du kiwi. J'ai du pinard à gogo, du ralouf et des dattes. Ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On me soupçonne d'avoir perdu la clé, d'avoir fait sauter le verrou et d'avoir jeté la poignée. Laissez-moi me présenter, messieurs, dames. Je m'appelle Idriss, je suis vendeur d'épices. Je vends de la naphtaline aux grands-mères et des bonbons aux écoliers. Derrière la pile de packs de bière, y'a des jouets, des bandes dessinées. Si t'as trop chaud, j'ai des éventails. J'ai même quelques ventilateurs pour l'hiver, des pulls de toute taille, ou mieux encore, des radiateurs. Je vends du rêve et du mystère, une boutique à double fond, mille et une nuits sur étagère, made in Idriss, le vendeur d'épices. Y'a le bruit qui court et l'odeur qui stagne au royaume des sources et l'échange qui gagne. Rendez-vous de madame, lieu de passage de monsieur, histoire coquine, mélodrame, récit d'enfant, savoir de vieux. J'ai l'oreille accueillante au discours solitaire, psychologue pour insomniaque, conseil d'amis, conseil de frères.
Vous écoutez RFI, les 11h en temps universel, midi à Paris. RFI Midi présenté par Anne Cantner. Bonjour Anne.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Le tour de l'actualité dans le monde avec nos correspondants, nos envoyés spéciaux, 2h30 ensemble pour parler aujourd'hui encore du conflit au Moyen-Orient. L'Iran dit avoir visé là tout à l'heure la direction du renseignement militaire et une base navale en Israël après avoir menacé de frapper aussi des cibles économiques. Réponse aux bombardements israéliens qui se poursuivent. Nouvelle salve ce matin à grande échelle, dit l'armée israélienne, en Iran donc, mais aussi encore au Liban où l'on déplore 570 morts dont 86 enfants et au moins 780 000 personnes déplacées, des déplacés que les autorités ont bien du mal à prendre en charge.
Ici, ce sont des couvertures. On essaie de distribuer à chaque déplacé un matelas et une couverture. En ce qui concerne l'eau potable, on fait de notre mieux, mais il y a encore des manques. Et concernant l'eau courante, ça s'est amélioré.
C'était quoi ?
Ils ont frappé la banlieue sud.
Reportage de notre correspondante au Liban à retrouver dans une heure. Et juste après, on fera le point justement avec notre invité sur la situation humanitaire dans le pays. On essaiera aussi d'en savoir plus sur ce qui s'est passé à Goma tôt ce matin dans cette ville de l'est de la République démocratique du Congo, contrôlée par le mouvement rebelle AFC M23. Ce mouvement parle d'une attaque de drones de l'armée congolaise, mais les circonstances ne sont pas très claires. On sait en revanche qu'Emmanuel Macron annonce la mort d'une humanitaire française employée de l'UNICEF est tué à Goma. Détail dans un instant. Et dans Afrique Midi à midi et demi, temps universel.
RFI Midi.
C'est aujourd'hui que le nouveau président prend ses fonctions au Chili. José Antonio Kast, populiste, d'extrême droite, anti-immigration et qui pourrait aussi revenir sur le droit à l'avortement. De nombreuses femmes ont manifesté pour dénoncer son arrivée au pouvoir.
Clairement, on a peur. Mais ensemble, on est plus fortes.
Las mujeres en el fondo vamos a estar alerta.
On va se mettre en état d'alerte.
Que va haber una resistencia.
Et on va résister face aux lois qui pourraient faire reculer nos droits.
Reportage de notre correspondante au Chili. On entendra dans une heure dans le journal. On y reviendra aussi dans le rendez-vous d'Haïti et des Amériques à 13h10, temps universel. Et vous pourrez entendre à cette heure-là un reportage de notre envoyé spécial en Haïti auprès de femmes victimes de viol. Notre reporter sera là pour nous parler de ces témoignages, de la difficulté pour les femmes à parler de ce qu'elles ont vécu. Voilà pour le programme. Bienvenue. Et on On commence donc avec le journal. Bonjour Lisa Vili.
Bonjour Anne, bonjour à toutes et à tous.
12e jour de guerre au Moyen-Orient. Les États-Unis et Israël continuent d'échanger des frappes aériennes avec l'Iran.
Israël poursuit ses frappes au sud et à l'est du Liban et sur la banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah, mais aussi pour la deuxième fois ce mercredi sur le centre de la capitale. Des frappes qui, depuis début mars, ont fait 570 morts selon le nouveau bilan communiqué par les autorités. L'Iran, de son côté, loin de fléchir, a revendiqué la vague de frappes la plus violente et la plus lourde depuis le début de la guerre. Et l'armée iranienne assure vouloir maintenant frapper les centres économiques et les banques après donc de nouvelles attaques sur les infrastructures pétrolières des pays du Golfe. Au moins 3 navires ont été frappés depuis ce matin, selon l'agence maritime britannique, à proximité du détroit d'Ormuz. Route commerciale par laquelle transite 1/5 des hydrocarbures de la planète. Son blocage entraîne une nouvelle hausse du prix du pétrole ce matin, plus 5%.
Avec une conséquence très concrète, c'est la hausse des prix à la pompe partout dans le monde et notamment en Égypte.
Et oui, dans le pays où la situation économique était en train de s'améliorer après une longue crise, mais le plus grand pays de la région, le seul épargné par la guerre, n'échappe pas au choc. La monnaie dégringole, la menace sur le trafic dans le canal de Suez inquiète. Et donc hier, le gouvernement a annoncé une nouvelle hausse du prix du carburant. Écoutez le reportage au Caire de notre correspondant Martin Dumas-Primbault.
Ce mardi, les Égyptiens se sont réveillés avec une hausse soudaine des prix à la pompe. Jusqu'à 30% pour le gaz naturel dont sont équipés de nombreux véhicules.
Je suis chauffeur, donc je dois adapter mes tarifs. Et ce n'est pas évident avec des clients qui ne comprennent pas toujours.
Pour faire son plein, Youssef a été obligé de tourner avant de trouver une station ouverte.
La hausse a eu lieu cette nuit. Beaucoup de stations ont fermé, d'autres continuent de travailler. On a du mal à y voir clair.
Une décision du ministère du Pétrole et des Ressources pour faire face à la flambée générale des prix de l'énergie. C'est la troisième hausse en un an.
En gros, le gouvernement essaie d'éviter de payer une subvention pour le carburant à cause des conditions fixées par le FMI concernant le déficit budgétaire.
Mohamed Ramadan est économiste à l'EIPR, une ONG égyptienne de défense des droits de l'homme.
Les prix de la nourriture vont augmenter, comme le coût des transports, donc cela va créer une inflation localement. Et si le contexte extérieur continue de se détériorer, nous aurons sûrement besoin d'une assistance financière.
Or, les pays du Golfe, principaux bailleurs de l'Égypte, sont pour l'instant toujours plongés dans la guerre. Martin Dumas-Primbault, Le Caire, RFI.
Et pour éviter la pénurie d'hydrocarbures, la communauté internationale cherche des solutions d'urgence. Les pays du G7 doivent se rassembler dans 3 heures. Pour la 3e fois en 3 jours, à la demande du président français Emmanuel Macron, il devrait discuter de l'impact économique du conflit et réfléchir notamment au déblocage de réserves stratégiques de brut en coordination avec l'Agence internationale de l'énergie. En France, le Premier ministre Sébastien Lecornu va lui réunir les partis politiques à Matignon pour les informer des répercussions du conflit en France en matière énergétique, de sécurité, mais aussi sur le plan diplomatique et militaire. Le président Emmanuel Macron, quant à lui, vient de confirmer la mort d'une humanitaire française à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est la victime de l'explosion d'une résidence civile dans le quartier Katindo. Tôt ce matin, les circonstances de l'incident restent encore floues à ce stade. Le mouvement FSM-23 qui contrôle la ville évoque une attaque de drone qu'il attribue à l'armée congolaise. Selon les premières informations recueillies sur place, un corps calciné a été retiré des décombres. Passion Ligaudi, bonjour.
Bonjour Lisa.
Que s'est-il passé exactement? Que sait-on à ce stade?
Mais d'abord, la dépouille retrouvée dans le décombre, eh bien, celle d'une humanitaire française. Vous l'avez dit, Lisa, sa mort a été confirmée notamment par le président français Emmanuel Macron. Le chef de l'État français a adressé ses condoléances à la famille, aux proches et aux collègues de la victime. J'adresse le soutien et l'émotion de la nation, a-t-il déclaré. Il a aussi appelé au respect du droit humanitaire et à la protection des personnels humanitaires. Même réaction du côté de l'Union européenne. La commissaire européenne à l'aide humanitaire, Radia Labib, évoque elle aussi une frappe des drones. Selon elle, la résidence touchée à Goma était habitée par des travailleurs humanitaires. Elle appelle toutes les parties à respecter leurs engagements. Les travailleurs humanitaires ne doivent jamais être pris pour cible. Les droits internationaux humanitaires doivent être respectés, toujours a-t-elle écrit. Et selon nos informations sur place à Goma, une équipe du mécanisme conjoint des vérifications élargies de la CIRGL ainsi qu'une équipe de la MONUSCO se sont rendues sur les sites ce matin. Selon l'AFP M23, il y a aussi des blessés. Et d'autres sources confirment d'ailleurs que jusqu'à 9h ce matin, les feux se dégageaient encore de la résidence qui est calcinée. La maison se trouve environ à une centaine de mètres d'une résidence de l'ancien président Joseph Kabila. Difficile à ce stade de dire si ces bâtiments étaient visés. D'après nos informations, Joseph Kabila n'était pas sur place et à Kinshasa pour l'instant, pas de communication.
Merci Passion Ligaudi pour ces explications. C'est aujourd'hui la journée européenne d'hommage aux victimes du terrorisme. En France, un musée mémorial du terrorisme doit voir le jour d'ici 4 ans. Un projet initié en 2018, puis menacé faute de budget, mais relancé sur un nouveau site. Une ancienne caserne de pompiers à Paris et déjà la collection d'objets qui doivent être exposés est en train d'être constituée. Petit aperçu avec Laura Martel qui s'est rendue dans les réserves.
Ce que vous avez ici dans cet espace de 60 mètres carrés, c'est l'intégralité des collections constituées jusqu'à présent. Nous sommes quand même à 2500 objets.
Claire Lartigue, chargée des collections.
Le musée mémorial du terrorisme, c'est un projet unique qui a une ambition en à peu près 1000 mètres carrés de développer cette histoire du terrorisme de ces 50 dernières années, à la fois en France, mais également ayant touché les Français à l'étranger. Le premier axe de réflexion, c'est un axe historique. On part des années 70 et on remonte le temps. Nous avons également un autre axe, davantage thématique, qui est très important, c'est l'axe de la voix des victimes. Et enfin, l'axe des réactions des sociétés face au terrorisme.
Originalité de la collection, 70% des pièces sont des scellés, des éléments d'enquête utilisés pendant la procédure judiciaire. Pour le reste, ce sont surtout des dons de rescapés et proches de victimes.
Ce que vous avez juste ici, c'est une boucle de ceinture de sécurité qui provient de l'explosion sur un avion de la compagnie Utah en septembre 1989.
On a string, I gave you everything. things never done in vain. When's a holiday for the worn out soul stuck inside a hurricane? Big screen, all of you, people civilized, seen through the eyes of a multitude, judges that I can't condemn. I'm getting better and better. Sing again with me. I don't understand why I lost it all, what I had at hand, options that turned out dead ends. I'm getting better and better.
Cette radio associative s'est rendue indispensable.
C'est vraiment la radio moderne qui apporte quelque chose.
C'est une radio libre.
Une radio libre.
À Évreux 102.4, dans le sud de l'Eure 95.9 et partout ailleurs sur principactif.net.
Papa, je crois que vous n'êtes pas encore prêt pour ce genre de choses. Par contre, vos gosses vont adorer ça.
Soy campesino y apenas despunta el sol. Señores, soy campesino y apenas despunta el sol. Salgo a cumplir mi faena y terminar mi labor. Salgo a cumplir mi faena y terminar mi labor. La tierra que Dios me dio, tengo que cuidarla bien. La tierra que Dios me dio, tengo que cuidarla bien.
j'en ai pas beaucoup. Mais la plupart sont plus que des potes. Et avoir plus que des potes, c'est déjà beaucoup. Mes potes roulent en bagnole lors de prier, font des barbecues énormes, où ça passe après ma braillée. Tous mes potes n'en ont rien à foutre de finir sous les spots et m'autorisent à les faire passer pour des bofs. Mes potes, ils s'habillent tout en rouge et font des prods. Ils jouent mal au foot, soulèvent de la fonte et font des gosses. Mes potes, y'en a qu'on galère à voir et d'autres à lâcher. Mes potes, y'en a qui galèrent à voir et d'autres à marcher. Mes potes, ils s'abrutissent à coups de documentaires ratés. Mais la plupart continueront d'acheter leur FIFA chaque année. Les pauvres, tu peux les croiser à charbonner à la fête des loges. Tu peux les croiser en boîte à boire dans les verres des autres. Ou sur le terre-plein central du rond-point d'achat. Mes fuck, je trouverai toujours le moyen de les dédicacer. Mes potes, ils continuent de monter sur le ring qui t'appelle. Ouais. Mes potes, paraîtrait que j'ai trop tendance à faire des feats avec. Mes potes, ils passent leur temps à s'embrouiller pour que d'aller l'inverse. Ou à se réconcilier autour d'une chicha et d'un grec. Ils donnent des cours de trading entre deux parties d'Apex. Ils sortent pas les griffes, ils se laissent caresser la tête.
À 5h du matin pour boire un coup. Avec certains je me demande même si je suis pas en couple. Parce que je les vois plus que ma meuf. Mais c'est elle qui fait les études. Nous on en lit pour constater que le monde se bat en couille. Ils jouent à Pokémon, ils regardent des mangas. Pendant ce temps là je me sers dans leur frigo et je leur demande pas ceux qui restent avec moi quand je veux pas aller en boîte. Je préfère toujours rester entre infréquentables. Mes potes, c'est avec qui dans 10 ans on se dira quelle époque. J'ai arrêté de fumer pour plus jamais leur dépanner des clopes. Qui en soirée me laissent mettre les pox. Qui passent leur temps à faire du son, à faire des prods. Jusqu'à en choper des cloches, ce qui m'énerve quand ils se droguent. Mais jamais je dirais que c'est des tox. Parce que ce qu'il y a dans mon verre, c'est rarement voir jamais des tox. Sur qui je pourrais compter quand faudra enterrer des corps. Le jour où des putains de connards ont dit du mal de mes potes. Ouais, mes potes, qui pourront me dépanner quand j'aurai plus rien dans les poches. Enfin, je sais pas comment, vu qu'ils ont déjà rien dans les poches. Ceux avec qui j'espère bien qu'on va grimper dans les tops pour continuer d'avoir le rythme de vie d'un ado en révolte. Je pourrais continuer des heures, mais j'ai peur que vous me voliez mes potes. Donc j'arrête ici mon plaidoyer.
Allez, encore de face.
On préfère tous vendre de la drogue que bosser à France Télé. Comme jusqu'au jour où faut payer le loyer.
C'est bon.
Si c'était pas mes potes, je voudrais que ce soit mes potes. Si c'était pas mes potes, je voudrais que ce soit mes potes. Si c'était pas mes potes, je voudrais que ce soit mes potes. Si c'était pas mes potes, je voudrais que ce soit mes potes. Hey, hey, hey. Si c'était pas mes potes, je voudrais que ce soit mes potes. Je voudrais que ce soit mes potes. Hey, hey, hey. Si c'était pas mes potes, je voudrais que ce soit mes potes. Hey, hey, hey. Si c'était pas mes potes, je voudrais que ce soit mes potes. Hey, hey, hey. Si c'était pas mes potes, je voudrais que ce soit mes potes. Hey, hey, hey. Si c'était pas mes potes, je voudrais que ce soit mes potes. Hey, hey, hey. Si c'était pas mes potes, je voudrais que ce soit mes potes.
Of course.